Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Nous voilà bien, votre émission conso du samedi matin de 9h15 à 10h sur RTL. Il n'est pas meilleure façon de démarrer le week-end que tous ensemble et sur l'antenne de votre radio préférée. Alors c'est parti pour le sommaire. Quand on est locataire, proposer notre logement à une connaissance ou un site de vacances le temps de notre absence, c'est plutôt tentant. Mais certaines règles doivent être respectées. Alors la sous-location, bonne ou mauvaise idée? Armelle Lévy, journaliste au service éco et conso d'RTL, nous délivre ses conseils toujours très avisés. Alors que nous sommes en plein Dry January, c'est une nouvelle tendance qui émerge, c'est l'alcool sans alcool. Et oui, vous m'avez bien entendu, l'alcool sans alcool, ça a le goût de l'alcool, l'odeur de l'alcool, mais ça n'est pas de l'alcool. On vous explique tout avec Jean-Philippe Brault, fondateur de Gueule de Joie, leader de la vente en ligne de boissons sans alcool. On dit de lui qu'il est le nectar des dieux. Le miel peut-il remplacer le sucre? Angèle Ferromacht, qui est chef naturopathe et créatrice de la guinguette d'Angèle à Paris, va nous apprendre comment le cuisiner.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
Viens chez moi, j'habite chez une copine.
Alors, la copine, elle ne fait pas partie forcément de la sous-loc, hein, quand même. Bonjour Armelle Lévy.
Bonjour.
Vous êtes notre copine du samedi matin. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service éco et conso d'RTL. Alors, la sous-location, c'est quoi exactement?
Alors, la sous-location, c'est quand le locataire loue son logement à quelqu'un d'autre. En gros, c'est lorsque vous, locataire principal, mettez à disposition d'une autre personne qui n'est pas en relation avec le propriétaire tout ou partie de votre logement. Vous, locataire, devenez alors à votre tour le bailleur d'une autre personne.
Donc ça, c'est légal, enfin on va y revenir dans un instant, mais ça implique quoi? Ça implique aussi une contrepartie, c'est-à-dire le paiement d'un loyer. C'est donc avantageux pour un locataire d'avoir un sous-locataire.
Tout à fait. La sous-location implique le paiement d'un loyer. Pourquoi? Parce que sinon, on est dans de l'hébergement. Il ne faut pas confondre. L'hébergement, c'est la mise à disposition à titre gratuit du logement, généralement à un proche, pendant une courte durée. Mais si vous, locataire, sous-louez votre appartement, vous touchez en contrepartie un loyer.
Mais alors, je vais vous poser la question, est-ce que c'est légal, ça, de sous-louer son appart, que l'on soit en bail libre ou meublé?
Oui, c'est tout à fait légal, mais il faut savoir que si vous êtes sous-locataire, vous n'avez aucun lien juridique avec le propriétaire. Votre seul interlocuteur, c'est le locataire en titre. Mais surtout, ce n'est pas la fête, hein, il y a des règles à respecter.
Donc, comme j'imagine, l'autorisation du propriétaire ou du bailleur, il faut le prévenir et obtenir son accord.
Oui, c'est même obligatoire. Sans son accord, vous ne pouvez pas sous-louer, c'est la règle. La sous-location nécessite au préalable l'autorisation écrite du bailleur, je dis bien écrite, et cette autorisation doit être transmise au sous-locataire avec la copie du bail en cours, et l'autorisation du propriétaire porte non seulement sur le principe de la sous-location, mais également sur le montant du loyer.
D'accord.
Et ça, c'est important. C'est la deuxième règle de la sous-location. Le montant du loyer est plafonné au loyer payé par le locataire et à la partie du logement mise à la disposition du sous-locataire. Un exemple, vous partez en vacances pendant 15 jours. Vous sous-louez votre appartement pendant cette période pour éviter de payer le loyer, vu que vous ne serez pas dans le logement. Eh bien, vous pourrez facturer au sous-locataire que l'équivalent de 15 jours de loyer, uniquement ce que vous payez vraiment. Il ne peut pas y avoir d'enrichissement de la part du locataire sur le dos du sous-locataire. Vous ne pouvez donc pas faire de bénéf. Si votre loyer est de 700 euros, vous le sous-louez un mois, vous ne pouvez pas faire payer 800, 900 euros au sous-locataire.
Attendez, il y a quelque chose comme ça que j'ai entendu, c'est que je peux sous-louer une partie de mon logement?
Oui, le montant à acquitter est calculé sur la durée et également sur la surface du logement. Imaginons, vos enfants sont déjà adultes, vous voulez sous-louer une chambre à un étudiant, la chambre en superficie fait 20% du logement, donc vous pouvez lui facturer 20% du loyer.
Mais sous-louer à un proche ou mettre son appart, je pense, sur un site comme Airbnb ou Abritel, est-ce que c'est le même principe, Armelle?
Oui, dès qu'il y a paiement d'un loyer, une rémunération, cela devient de la sous-location. Donc si vous passez par une plateforme, c'est considéré comme de la sous-location. Il vous faut l'autorisation écrite du propriétaire et le sous-locataire doit, comme vous, s'engager à respecter le règlement de copropriété. Donc surtout, ne sous-louez pas sur Abritel ou Airbnb dans le dos du propriétaire en vous disant qu'il ne le saura pas. Parce qu'avec les réseaux sociaux, les plateformes. Tout est contrôlé et il ne faut jamais sous-estimer les pouvoirs des voisins et de la concierge pour se rendre compte que c'est bizarre. Il y a des va-et-vient, ça crée du bruit, du désordre, des dégradations des parties communes. Les voisins sont toujours très motivés pour signaler qu'il y a quelque chose pas net dans l'appartement. Et alors, quand le propriétaire vient à l'apprendre, ça devient alors très très grave.
Oui, parce que c'est vrai que si le propriétaire le découvre ou qu'il refuse, mais qu'on le fait quand même, en fait, qu'est-ce qu'on risque en dehors du fait qu'effectivement, ce n'est pas honnête, hein, voilà. Mais on risque quoi à
Alors, d'une part, vous pouvez perdre votre logement. Ouais. Cela entraîne la résiliation judiciaire du bail. Ouais. D'autre part, il vous demandera de rembourser tous les loyers que vous avez obtenus sans son autorisation. Et là, il y a eu une décision de justice en 2018 à Paris. Une locataire a été condamnée à rembourser plus de 46 000 euros au propriétaire. Elle sous-louait sur Airbnb son appartement 60 euros la nuit, alors qu'elle payait un loyer de 600 euros par mois.
Donc, il y a un cadre juridique à tout ça.
Oui, c'est la loi de 1989, un texte qui régit les rapports locatifs. L'article 8 reprend tout ce que je vous ai dit avant sur les obligations envers le propriétaire et le sous-locataire, avec une précision. Le locataire peut sous-louer son logement, mais cela reste sa résidence principale. Donc, le locataire est censé habiter plus de 4 mois par an dans les lieux. S'il le sous-loue en intégralité, eh bien, son logement n'est plus sa résidence principale, ça devient une activité professionnelle et il pourrait y avoir une résiliation du bail. Et à Paris, avec les règles concernant Airbnb, des amendes en plus à payer.
Pas plus de 4 mois par an, ça veut dire en fait que la sous-loc, elle a une durée limitée.
Oui, la définition de la résidence principale dans la loi de 89, c'est 8 mois par an. Donc, le logement n'est plus sa résidence principale si le locataire le loue plus de la moitié du temps, ce qui veut dire plus de 4 mois par an. S'il le sous-loue 5 mois par an, le locataire engage sa responsabilité vis-à-vis du propriétaire car il viole les dispositions de la loi. Mmh. On n'est plus sur un bail d'habitation. Dans ce cas-là, à Paris notamment, le propriétaire doit faire une démarche administrative pour requalifier le bail en activité professionnelle. Et s'il ne veut pas, ça peut entraîner pour le locataire la résiliation judiciaire du bail. Et il engage également sa responsabilité vis-à-vis de la copropriété si le règlement de copropriété interdit toute activité professionnelle. Mais le problème, comme avec les plateformes du type Airbnb, il y a beaucoup de passages, chacun vient avec sa valise, un pet sur l'escalier, un pet sur l'ascenseur, ça se dégrade très facilement, ça agace. Les élus ont pris conscience qu'il y avait un problème avec Airbnb et la sous-location dans le logement collectif à cause des nuisances et des dégradations, sauf qu'ils ne savent pas comment l'interdire parce qu'ils sont confrontés au droit de propriété. C'est un principe constitutionnel, vous pouvez disposer librement de votre bien. Donc, ils en concluent qu'on ne peut pas vous empêcher de sous-louer sur Airbnb, mais c'est limité à 4 mois par an.
Et dans un instant, Armelle Lévy, non seulement je vais vous poser d'autres questions sur la sous-location, parce que ça intéresse forcément nos auditeurs, et je vais vous proposer de boire un petit coup.
Oui.
Et pourtant, il est tôt. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'alcool sans alcool, figurez-vous. Donc, je vais même vous proposer un petit ginto. Vous voyez?
Ah, dis donc,
ginto. Sans alcool. Mais... vous pourrez après vous prendre juste une petite cuillerée de miel et puis ça va adoucir votre voix puisqu'on fait de la radio. On se retrouve tout de suite sur RTL.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Flavie Flamand sur RTL. Nous voilà bien.
Nous voilà bien, c'est jusqu'à 10h. Merci d'être avec nous sur l'antenne d'RTL. Dans un instant, on va vous parler en ce dry January, peut-être respecté par certains, c'est-à-dire ne pas boire d'alcool pendant un mois. On va vous parler des alcools sans alcool. Vous allez apprendre plein de choses. Et puis, on parlera du miel aussi. C'est un petit peu de saison, on en a tous besoin et ça fait un peu de douceur sucrée sur cette antenne. Mais pour l'heure, elle attend son mojito avec impatience.
Oui.
Mais en attendant, il va falloir qu'elle nous parle de la sous-loc. Armelle Lévy, tout de suite.
Seras bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi.
Bienvenue chez moi pour effectivement s'intéresser à la sous-location. Mais il y a des restrictions à la sous-location. On vient d'en entendre certaines. Quelles sont les autres, Armelle Lévy?
Eh bien, sur le principe, si vous habitez dans un logement social, vous ne pouvez pas sous-louer, c'est interdit. Vous pouvez éventuellement sous-louer une partie logement lorsque c'est pour une personne âgée ou handicapée. C'est vraiment une occupation intergénérationnelle avec autorisation préalable du bailleur. Mais Paris Habitat a expulsé l'année dernière 40 personnes qui sous-louaient indûment leur logement social. Rappelons que dans le secteur social, les loyers sont plafonnés justement pour aider les plus modestes. Donc c'est interdit de gagner de l'argent dans le dos des pouvoirs publics et de la collectivité qui vous ont aidé.
Vous nous disiez tout à l'heure que nous sommes, quand on fait de la sous-location de notre appartement, le seul contact vis-à-vis justement du propriétaire ou du bailleur. Alors qui est responsable en cas de dégradation du bien? C'est mon sous-locataire ou c'est moi?
Non, c'est vous, c'est le locataire principal qui est responsable.
Donc c'est moi.
C'est ça, il faut faire attention que le sous-locataire soit bien assuré. et que vous, le locataire aussi, il faut vérifier que l'assurance du locataire et du sous-locataire couvre bien ce type de désordre. De toute façon, c'est le locataire qui est responsable auprès du propriétaire des agissements de son sous-locataire. On le rappelle, le propriétaire n'a aucun lien juridique avec le sous-locataire. Donc, si le sous-locataire dévaste le logement, ou même juste s'il fait un éclat sur le carrelage ou la faïence de la salle de bain, c'est la responsabilité du locataire. Et en aucun cas, vous, locataire, pourrez dire au propriétaire « Attendez, moi, je ne paye pas la réparation, ce n'est pas de ma faute, je risque rien, c'est le sous-locataire. » Non, le propriétaire, ce n'est pas son problème, ça lui est totalement inopposable. Au pire, le propriétaire présentera la facture au locataire qui la présentera au sous-locataire.
Alors là, on parle du bailleur, on parle du locataire, mais quels sont les conseils que l'on pourrait donner à un sous-locataire ?
Alors, vérifiez quand même l'état du logement, et si c'est une sous-location partielle, savoir comment peut-être préserver votre intimité. Si c'est la chambre, est-ce qu'il y a un verrou ? Se renseigner aussi des services, est-ce qu'il y a bien la fibre optique, internet au débit pour travailler ou pour les cours, le téléphone, tous ces genres de choses. S'assurer que votre assurance couvre bien les dégradations éventuelles. Ne pas hésiter non plus à faire un état des lieux s'il y a un dépôt de garantie exigé par le locataire. Bien écrire le montant et les modalités de restitution. Si vous me demandez un dépôt de garantie de 400 euros, oui d'accord, mais vous me le rendez quand ? Dès que je vous rends les clés ou pas ? Donc il faut avoir les mêmes réflexes que pour une location. Pour le loyer aussi, normalement c'est un montant toute charge comprise, mais est-ce qu'il y aura des charges en plus ? Comment elles sont déterminées ? Et pour le locataire, il faut bien choisir son sous-locataire. Vérifiez toujours qu'il est bien couvert en cas de dégradation, car s'il s'en va sans laisser d'adresse, le propriétaire, lui, il vous connaît et c'est lui qui va vous demander des comptes.
Évidemment. Moi, je trouve que vous avez répondu très bien à toutes nos questions. Je voudrais rajouter que la sous-location, ça peut être aussi une grande aventure humaine, hein, et intergénérationnelle. Il y a des personnes âgées qui font de la sous-location parfois d'une chambre à des étudiants et de grandes histoires d'amitié qui en découlent.
C'est vrai.
Et c'est du lien social dont on a évidemment bien besoin, même si aujourd'hui, dans la situation sanitaire qui est la nôtre, évidemment, ça fait partie des grandes questions que l'on doit se poser aussi avant la sous-location. Merci beaucoup Armelle Lévy. Je vois que vous voulez votre petit mojito, vous. Hein
je l'ai
un petit ginto. Et oui, parce que les alcools sans alcool, vous savez que c'est une nouvelle tendance aussi.
Oui, c'est vrai.
Et voilà. Et donc, ça peut répondre effectivement à certaines problématiques et peut-être aussi répondre aux besoins de ceux qui font le Dry January. Allez, chin, c'est tout de suite sur RTL. Merci Armelle Lévy.
Mr. Cocktail. Oh, Mr. Cocktail. Mr. Cocktail.
Sans alcool, la fête est plus folle, hein.
Sauf qu'avec Mr Cocktail, c'était un peu dégueu, hein. Bonjour Jean-Philippe Brault.
Bonjour Flavie.
Soyez le bienvenu sur RTL en ce samedi matin. On parle d'alcool sans alcool. Vous êtes fondateur de Gueule de Joie, leader de la vente en ligne, justement, de boissons sans alcool. Alors, je disais que Mr Cocktail, pardon, c'est un jugement, mais personnel, je n'avais pas trouvé ça très, très bon. On peut aujourd'hui boire de l'alcool sans alcool qui soit agréable, qui soit délicieux ?
On peut, effectivement. Il y a 10, 15 ans, encore 20 ans, il y avait des acteurs qui étaient pionniers. C'était peut-être un petit peu tôt dans les mentalités des gens. Et puis, les techniques n'étaient pas suffisamment abouties pour proposer de la qualité. Désormais, il y a beaucoup de viticulteurs, de professionnels du vin, de la bière, des spiritueux, qui sont en mesure de mettre leur savoir-faire au service de très bonnes versions sans alcool. Et c'est ce qui est nouveau, avec une demande des Français qui est beaucoup plus développée. Je pense que les gens sont beaucoup plus à même aujourd'hui d'accepter de boire différemment.
Mais l'alcool sans alcool, c'est quoi exactement ? Parce qu'on ne sait pas trop de quoi on parle en réalité.
C'est juste à mi-chemin. Justement, c'est ce, entre l'alcool et le sans-alcool, jusqu'à présent, vous aviez donc des produits alcoolisés, vous aviez des boissons rafraîchissantes sans alcool, de l'eau, des sodas, des jus qui par ailleurs sont très bons, mais qui ne sont pas vraiment adaptés à des codes de consommation tels que l'apéritif, trinquer lors de moments festifs pour accompagner un bon repas. Et donc, à mi-chemin entre les deux, avec, on va dire, la culture et les codes des produits alcoolisés, le savoir-faire des professionnels dans le milieu de la bière, du vin ou des spiritueux, on arrive sans fermentation ou avec une fermentation qui est maîtrisée ou par des procédés de désalcoolisation à proposer finalement à mi-chemin des boissons qui ne sont pas de l'alcool mais qui s'en rapprochent au niveau des codes gustatifs et puis aussi des codes visuels.
Mais ça concerne quels alcools ? Parce qu'on peut pas faire ça avec tout.
On peut faire ça avec tout aujourd'hui. Nous, on est présents sur trois grands segments que sont, je le disais, les vins, les bières, les cocktails et spiritueux. Donc vous voyez qu'on peut vraiment s'adapter à ces trois grandes catégories de boissons qui traditionnellement sont alcoolisées et en proposer des versions qui ne le sont pas. et qui ont des goûts assez similaires et comme je le disais, qui sont également proposés par des professionnels. C'est ça qui est intéressant. On a vraiment une mentalité qui change. On ne voit plus ces produits comme des produits concurrentiels ou des produits pauvres, mais bien comme des vecteurs déjà de croissance pour des filières qui sont en difficulté et qui plus est en ce moment, et pour toucher une cible différente et qui est en demande d'alternatives.
Mais vous nous disiez, ça a presque le même goût que l'alcool en fait. Hein. On est d'accord qu'on a le sentiment, parce que moi je ne connais pas véritablement, mais on a le sentiment de boire de l'alcool sans ses inconvénients, c'est ça la promesse?
Non, ce serait un leurre. Il faut distinguer les saignements. Pour la bière, effectivement, à l'aveugle, c'est bluffant. Parce qu'on est sur le même procédé de fabrication, donc on va vraiment, sauf le corps, qui va peut-être manquer parfois, mais on va compenser avec des houblons, un certain nombre de choses. Et on va retrouver beaucoup de similitudes. Dans le vin sans alcool, disons qu'on est sur une nouvelle catégorie de boissons qui est pas loin du vin, pas loin du jus de raisin. C'est un peu à l'image de ce qu'on peut retrouver en plaisir gustatif dans les vins en biodynamie. Donc on est sur une approche qui est très naturelle, c'est-à-dire qu'on va utiliser très simplement des raisins, des cépages français, et on va en faire des assemblages pour arriver à un résultat qui soit vraiment adapté à des temps de consommation, lors de repas ou à l'apéritif, des choses qui ne sont pas sucrées, des choses qui sont très très agréables à consommer, mais c'est entre les deux. Donc c'est vraiment une nouvelle expérience gustative. C'est ça qui peut être déroutant pour certains, mais on voit qu'avec le temps, le palais s'habitue et les gens apprécient ces boissons. Et puis pour les spiritueux et les cocktails, eh bien là aussi, on va retrouver des arômes, on va travailler des matières premières qui sont tout à fait similaires, mais sans fermentation. Donc ça va venir donner du goût à nos cocktails et des goûts auxquels on est habitué dans les versions alcoolisées.
Alors on va se retrouver dans un instant, on va rentrer un petit peu plus encore dans le détail, puisque c'est ce que vous disiez, c'est une éducation du palais, c'est une nouvelle forme de consommation. Et voilà un discours qui me plaît. Et je vous dirai pourquoi. Ce sera dans un instant sur l'antenne d'RTL. On se retrouve tout de suite.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Jusqu'à 10h sur RTL.
Flavie Flamand, nous voilà bien.
Un petit peu de douceur avec Angèle Ferremac dans un instant qui nous parlera du miel et qui nous donnera des recettes. Mais pour l'heure, Chin, c'est l'heure de l'apéro. Je suis d'accord, il est bientôt, mais il n'y a pas d'alcool.
Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool.
Et ouais, parce que figurez-vous qu'on peut décoller maintenant aussi avec des boissons sans alcool. Et c'est une nouvelle éducation du palais, nous avez-vous dit. Jean-Philippe Brault, vous êtes notre invité et fondateur de Gueule de Joie, qui est leader de la vente en ligne de boissons sans alcool. Je vais vous dire ce qui me plaît dans le discours que vous nous teniez il y a un instant, Jean-Philippe. C'est que, effectivement, vous n'êtes pas en train de nous vendre des produits qui pourraient s'apparenter à d'autres sans les inconvénients et qui, quelque part, nous habitueraient, pardon de le dire comme ça, mais à une consommation d'alcool qui serait masqué. Enfin, on n'est pas en train de se mentir. Vous nous parlez en fait de produits nouveaux, inédits, différents, qui peuvent rentrer, en tout cas pour ceux qui en ont envie, dans leur nouvelle consommation.
Et tout à fait, et de façon très décomplexée, totalement assumée. Je pense qu'aujourd'hui, on est prêt à proposer une nouvelle manière de boire. Moi, je le vois à mon niveau, mais il y a la demande, elle est très importante. Et puis, le signe qui est positif, c'est que les producteurs s'y mettent tous. Donc, ils sentent bien que là, il y a un engouement et qu'il faut répondre, qui plus est, avec le savoir-faire que l'on a en France. C'est notre patrimoine, c'est notre culture de faire du vin, de faire de la bière, des spiritueux.
Et donc, on n'est pas en train de tromper notre cerveau en nous faisant croire qu'on boit de l'alcool, non. C'est une autre façon de consommer. C'est ça qui je pense aux jeunes, pardonnez-moi, Jean-Philippe, je vais vous dire spontanément, moi, je suis une maman et c'est vrai que le plus tard possible, évidemment, pour nos enfants, l'alcool. Et on m'a demandé il y a quelques années de porter une marque d'une fausse vodka, mais que l'on vendait comme une forme de vodka. Et j'ai refusé parce que je trouvais que c'était une façon, à un moment donné, d'inciter les jeunes à boire. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, je comprends tout à fait. Nous, c'est pas la démarche. Le message des profs, c'est pas la démarche. On n'a pas besoin de leurre. Je pense que tout le monde assume suffisamment le fait de boire différemment. Et c'est tant mieux.
Voilà, ce sont des nouvelles boissons qui nous accompagnent. Alors, ça n'a pas forcément le même goût, mais ça a surtout des avantages. C'est que ça n'a pas les inconvénients de l'alcool. Est-ce que ça veut dire qu'on ne ressent aucune ivresse? Parce qu'il y en a certains qui vont se dire, bah ouais, moi je vais peut-être essayer ça, mais je vais avoir aucun effet, même l'effet un peu euphorisant ou désinhibant.
Non, aucune ivresse. Simplement l'ivresse du plaisir, du partage, de passer un moment convivial. Il y a une forme d'inclusion. Enfin, ça, déjà, c'est une ivresse. L'ivresse de pouvoir faire comme tout le monde quand on ne veut pas ou qu'on ne peut pas boire, d'avoir un verre similaire, d'avoir une boisson qui s'apparente à ce qu'on a l'habitude de boire en version alcoolisée. Et ça, ça participe vraiment au plaisir. Et vraiment, on a des témoignages de personnes qui disent « Mais merci, merci, puisqu'enfin, je peux assumer de ne pas boire. » Même ponctuellement, j'ai envie de dire. Ça ne concerne pas uniquement les gens
comme
qui
en ce moment, le fameux Dry January.
Complètement. Les gens sont ravis de pouvoir trouver une alternative qui fasse qu'on est beaucoup plus intégré, on va dire, dans les habitudes que sont les nôtres en termes de consommation.
Justement, qu'est-ce qu'il y a dans ce genre de boisson ?
Là aussi, je vais segmenter. Oui. Pour la bière, c'est très simple. Une bière, c'est du malt, des levures, des houblons et de l'eau. Eh bien, c'est la même chose dans nos bières sans alcool. Donc, on va simplement éviter la fermentation, travailler sur des levures spécifiques, compenser avec du houblon pour donner du goût. C'est très simple. Pour le vin, ce n'est que du raisin qui est soit désalcoolisé, donc on a des professionnels du vin qui enlèvent l'alcool par différents procédés, mais des procédés qui sont simplement physiques et pas chimiques. Donc on a un produit qui reste totalement naturel et qui conserve ses arômes, ou bien un produit, un assemblage de cépages qui ne fait l'objet d'aucune fermentation. Et simplement, on va travailler le raisin, on va le décortiquer sous toutes ses formes, on va en faire des macérations, on va en faire des mous, tout ça pour donner quand même de la structure, pour donner de la longueur en bouche, et faire que ça ne soit pas seulement un jus de raisin. Et pour les spiritueux, c'est la même chose, on est sur une approche très naturelle. On parle beaucoup des gins sans alcool, on va utiliser le genévrier, qui est le composant de base du gin, simplement il n'y aura pas de fermentation. Donc on est vraiment sur une approche qui est très naturelle, avec des matières premières qui sont utilisées dans les versions alcoolisées, mais là, sans procédé de fermentation ou par une désalcoolisation.
Et alors, justement, ça se consomme pur ou en cocktail, les deux, en fait, hein ?
Pour les spiritueux, notre conseil, c'est de les consommer en cocktail. Là aussi, ce serait un leurre. Vous passez de 40 degrés d'alcool à 0 degrés d'alcool, vous n'avez pas le corps. Ce plaisir de sentir quelque chose passer, vous ne l'aurez pas. Donc, c'est vraiment des produits qui sont adaptés pour la mixologie, pour faire du cocktail, et simplement tenter l'expérience en remplaçant dans vos cocktails les spiritueux que vous avez l'habitude de consommer. Vous allez retrouver des arômes en bouche qui sont tout à fait agréables et qui s'apparentent aux versions alcoolisées. Notre conseil, il est de les consommer de cette manière-là.
D'accord. Les prix, est-ce qu'ils sont similaires à ceux des alcools ?
Oui, ils sont similaires pour la bière, une bonne bière traditionnelle. On est vraiment sur la craft, donc c'est vraiment des brasseries. Et en fait, au final, c'est pas l'alcool qui fait le prix, mais c'est plutôt la matière première utilisée, c'est le temps passé. Et au fond, c'est presque parfois plus difficile de faire un bon produit sans alcool que de faire un vin, une bière ou un cocktail alcoolisé. Donc, il y a du travail derrière. Et puis, c'est des quantités aussi qui sont moins importantes. Ça représente moins de volume. Donc, forcément, ça se répercute sur les coûts. Donc, on est, oui, tout à fait sur des prix assez similaires.
Alors, à partir de quel âge est-ce qu'on peut en consommer ? Je vous explique. Moi, j'ai un fils de 16 ans. Lui faire goûter du gin qui serait du gin sans alcool, ou en tout cas un alcool fort qui serait sans alcool, ça me dérangerait. Lui faire goûter du vin qui serait du faux vin, ça me dérangerait, parce que quelque part aussi, je ne sais pas pourquoi, mais je me dis que je l'inviterai à une consommation d'alcool, même s'il n'y a pas d'alcool. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que ces alcools-là ont un autre nom, en fait.
Je comprends tout à fait. C'est pour ça que ce sont des boissons pour adultes. En revanche, les consommer, on va dire, pendant l'apprentissage que l'on a de la boisson, il est quand même intéressant de pouvoir intégrer, quand on a 16, 17, 18 ans avec nos parents, d'intégrer ce type de boisson, c'est aussi expérimenter une nouvelle manière de boire. Et ça participe à l'éducation. Nous, on est une génération où dès l'adolescence, ou on va dire le jeune âge adulte, on n'avait pas ces alternatives. Donc on est habitué en France depuis longtemps à boire des boissons alcoolisées. Alors c'est très bien, il y a des choses très bonnes. Et tant que c'est avec modération, c'est parfait, il faut continuer. Mais d'intégrer cette nouvelle génération de boissons, c'est aussi donner des bonnes habitudes. Ça ne va pas nous amener vers des boissons alcoolisées. Je pense que ça a vraiment l'effet inverse. Néanmoins, moi j'ai un message.
Ça reste des boissons pour adultes.
Toujours de vigilance, même pour les personnes abstinentes. Retrouver des goûts, retrouver des habitudes de consommation, il faut se méfier. Je pense que ce n'est pas adapté à tout le monde.
Très bien, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces réponses, Jean-Philippe Brault. Je rappelle que vous êtes fondateur de Gueule de Joie. Et c'est vrai que c'est quand même vachement plus sympa que la gueule de bois. Voilà, sur gueule-dejoie.com. Merci beaucoup Jean-Philippe Brault.
Avec plaisir. Bonne
On journée. Va parler du miel dans un instant avec Angèle Ferremact.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Jusqu'à 10h sur RTL.
Flavie Flamand, nous voilà bien.
Allez, grâce à nous voilà bien, en ce samedi matin, on sait tout sur la sous-location. Il faut être vigilant. On sait tout sur les alcools dits sans alcool. Il faut l'être également. Et dans un instant, on va tout apprendre sur le miel, ma bonne dame. La voix de Fabienne Thibault et c'est celle d'Angèle Ferromin qui nous rejoint, qui va résonner sur cette antenne. Bonjour Angèle.
Bonjour Flavie, bonjour tout le monde.
Merci d'être avec nous ce samedi matin. Vous êtes chef, créatrice de la guinguette d'Angèle à Paris. Vous êtes également naturopathe et le miel, c'est, je dirais, pardon de le dire comme ça, mais c'est un produit de toutes les saisons, mais c'est vraiment un produit de saison. En ce moment, c'est tout bon le miel avec tout ce qui nous arrive.
Exactement, le miel a plein de vertus, donc en ce moment, c'est le rêve. On en consomme.
C'est à quoi comme vertu justement?
Le miel, c'est antifongique, antibactérien. En fait, en général, tous les produits de la ruche, le miel, le pollen, la propolis, même la gelée royale, sont vraiment bons pour notre santé.
Mais alors, c'est composé de quoi le miel, puisque ça vient de la ruche?
C'est composé principalement de fructose. En fait, ça contient 80% de glucose et 15 à 20% de fructose. Il y a aussi 3% de protéines, mais en fait, c'est principalement du glucose. Après, le ratio glucose-fructose va dépendre du genre de miel, en fait. Plus il va contenir du fructose, plus il va être liquide, et plus il va contenir du glucose, plus il va s'agglomérer, se cristalliser.
Et tout dépend des fleurs.
Tout dépend des fleurs, exactement. Par exemple, le miel d'acacia, il restera toujours liquide. Mais avec le temps, selon les fleurs, ils vont se cristalliser plus ou moins vite.
Ah, génial. Moi, je préfère le miel dur. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas pourquoi.
Le bien crémeux, le bien dur.
Oui, j'aime bien. Et alors, en ce moment, j'en mets tout le temps dans mon thé. J'ai l'impression, d'abord, que effectivement, c'est bon pour ma santé, que ça m'apporte de l'énergie. J'ai l'impression que c'est bon aussi pour mon immunité. Donc, j'ai cru comprendre qu'effectivement, de ce côté-là, j'avais plutôt raison. Mais est-ce que mes fesses peuvent lui dire merci? Est-ce que c'est très calorique, le miel?
Eh bien, oui, évidemment, c'est très calorique. C'est du sucre. Ça utilise avec parcimonie, mais en revanche, c'est quand même des bons sucrants. C'est un indice glycémique moins élevé que le sucre blanc, évidemment. Et ça a plein de vertus. Mais le miel, il faudrait vraiment le consommer comme un produit de luxe. Déjà, on devrait même pas le chauffer, en fait. Parce que quand on le chauffe, on perd un peu ses vertus. Il y a une partie des vitamines qui disparaissent, malheureusement, avec la chaleur. On devrait le prendre presque cru et seul, en fait. Et quand on sait qu'une abeille, dans toute sa vie, ne va produire qu'une cuillère à soupe de miel... En même temps, l'abeille passe par plusieurs étapes dans sa vie.
Elle a des grades.
Elle a plein de métiers, voilà, elle a des grades. Et le grade ultime, c'est d'aller butiner, de ramener la nourriture. Et donc, dans toute sa vie, elle ne va butiner qu'une quinzaine de jours. Et donc, elle pourra produire qu'une cuillère de miel. Donc, en fait, quand on sait ça nous donne encore plus envie de respecter ce produit vraiment de luxe. Bien choisir et de consommer évidemment français si on peut, etc.
Alors à propos de bien choisir, en dehors du drapeau bleu, blanc, rouge, qu'est-ce que vous nous conseillez justement? Est-ce que tous les miels se valent? Non.
Non, bien sûr. Déjà, il faut faire attention. Il faut regarder en fait la composition, le choisir cru, évidemment français, sauf que les Français consomment beaucoup plus de miel qu'on en produit. C'est pour ça que je pense que c'est important de parler de la façon de le consommer et vraiment de le prendre comme un produit de luxe et plutôt valoriser évidemment le miel français. Mais
qui coûte plus cher.
Qui coûte plus cher, ah oui. Alors quand on a du miel chinois, ukrainien qui coûte 5 euros le kilo, on est presque sûr que c'est du faux miel, qu'en fait il est coupé avec du sirop de glucose. Donc ça sert à rien, il n'a pas de bonne vertu, il exploite en plus les abeilles, elles sont vraiment exploitées, on les pousse à une plus grande rentabilité. Donc les miels français, ils coûtent cher, ils coûtent à peu près 30 euros le kilo, mais ils valent vraiment, vraiment le coup.
Et dites-moi Angèle, ça se conserve super longtemps le miel, hein?
Mais alors ça, c'est ad vitam. Extraordinaire. Ad vitam aeternam. En fait, il y a sur le pot de miel une date limite de consommation par principe, parce qu'on est obligé avec les normes, etc. Mais en fait, le miel ne se périme jamais quand c'est du bon miel. Et d'ailleurs, on aurait retrouvé dans les pyramides du miel, en fait, qui était bien conservé. Donc évidemment, il restait plus que les cristaux. Mais il a été prouvé qu'en fait, il était tout à fait encore comestible des milliers d'années après. Donc en fait, le miel n'a pas de date de péremption.
Alors, une petite recette pour la route, vous nous dites de le manger cru, mais on peut bien en faire autre chose aussi, Angèle.
Bah oui, alors moi j'aime bien faire une recette d'un gâteau complètement des abeilles. Donc ça va nous mettre à peu près 10 minutes à le préparer, mais il va cuire à peu près une heure. Donc je vais mettre pour à peu près 6 personnes, 4 œufs, 200 g de beurre à température ambiante, 80 g de farine de riz et 160 g de poudre d'amande, 120 g de sucre complet, 2 pincées de sel gris et 1 cuillère à café de propolis. Et pour le glaçage, donc je vais l'utiliser cru, je vais mettre du miel d'acacia, donc comme ça il est liquide, et une bonne cuillère à soupe de pollen.
Génial.
Alors,
qu'est-ce que je fais?
Pour le faire, je vais commencer un petit peu comme tous les gâteaux. Je vais commencer à mélanger le sucre avec le beurre. C'est pour ça que c'est important qu'il soit à température ambiante, à part si on a un robot efficace. Évidemment, on choisit du sucre complet. Et vous remarquerez que j'ai mis très, très peu de sucre parce que le glaçage au miel va nous apporter plein de sucre, de goût sucré. Et donc, je vais mélanger le beurre avec le sucre. Ensuite, je vais ajouter les farines. Je casse les œufs, je mélange bien. Je rajoute la propolis au dernier moment. Ça va ajouter un goût vraiment délicieux. Je beurre mon moule. Je le mets à chauffer à peu près une heure à 170 degrés. Et ensuite, quand je le sors du four, je le laisse refroidir et je le recouvre de miel d'acacia qui a un effet miroir magnifique. Et je mets une bonne cuillère à soupe de pollen pour la décoration. Et c'est magnifique et délicieux avec un petit thé. C'est vraiment excellent.
Eh bien, c'est une recette qu'on retrouvera sur nos réseaux sociaux, justement, de nous voilà bien. Vous savez ce qu'on se fait, Angèle Ferremacht, et aujourd'hui, ça a le goût du miel.
Des bisous mielleux, mielleux.
On se fait des bisous très mielleux. Tiens, on va garder encore ces bisous de Philippe Catherine, pendant que je vous dis au revoir Angèle, je rappelle que vous êtes créatrice de la guinguette d'Angèle à Paris, vous êtes naturopathe et votre dernier ouvrage c'est ma cuisine naturelle pour bébé chez Marabout. Merci Angèle Ferremacht, je vous embrasse.
Merci beaucoup Flavie, au revoir,
à vous tous également, je fais des bisous puisque toutes les bonnes choses ont une fin. Vous pouvez prolonger le plaisir sur RTL.fr avec notre replay sur les plateformes dédiées pour le podcast et nos réseaux sociaux, donc pour les recettes. Je vous donne rendez-vous lundi dès 14h30 sur RTL pour En effet pour s'entendre, le magazine du partage et de la réflexion. Et à la semaine prochaine, 9h15, pour un nouveau numéro de Nous voilà bien. Prenez bien soin de vous, passez un très bon week-end. Un week-end au chaud et à l'abri, à l'écoute d'RTL. Je vous embrasse.
Nous voilà bien sur RTL, avec Flavie Flamand.
Salut, c'est Vincent Perrault.
RTL Pop Ciné.
Je vous attends tous les dimanches dès 14h pour RTL Pop Ciné. Des jeux, des interviews, des chansons de films, pour tout savoir de l'actualité cinéma.
RTL Pop Ciné, présenté par Vincent Perrault, dès maintenant en replay sur RTL.fr.